auditeurs, bonjour à tous les chroniqueurs. Quel plaisir de vous retrouver en cette période à la fois triste et cruciale pour notre pays. En effet, à l'heure où la France a subi les assauts macabres de djihadistes de l'État islamique, ou plutôt, devrais-je dire, de Daesh, puisque, à mon sens, c'est trop d'honneur leur accorder que de parler d'État ou de proto-État pour les désigner. Et pourtant, cette organisation est bien devenue une sorte d'État hors la loi qui attire sans cesse plus de militants et de combattants du monde entier. Encore inconnue du grand public il y a quelques mois, cette start-up du terrorisme, née en Irak sous l'occupation américaine, est devenue depuis une multinationale de la terreur, prônant une lecture du Coran extrémiste et détachée de toute approche téléologique. Alors historiquement, l'État islamique était un mouvement, et toujours d'ailleurs un mouvement salafiste djihadiste, particulièrement hostile aux chiites. Son principal objectif est celui du rétablissement du califat des Abbassides, c'est-à-dire l'instauration d'un État musulman qui s'étendrait de l'Afrique du Nord à l'Asie centrale. C'est donc une sorte de Sunnitland que l'État islamique souhaite instaurer. Alors je me suis posé la question, et je pense que beaucoup d'entre nous l'ont fait, sur comment lutter contre celui-ci. Bien évidemment, une riposte politique et militaire s'impose, et on le sait, elles ont à l'heure actuelle déjà commencé, mais c'est finalement aussi une riposte idéologique qui doit être menée. Et cette dernière est par ailleurs à la portée de chacun de nous, puisqu'elle consiste tout simplement à continuer de vivre tel que nous le faisons, à continuer de défendre les valeurs qui nous sont chères et qui caractérisent si bien la France. En effet, c'est cette image donc de la vie à la française qu'une poignée d'abrutis ont tenté de mettre à mal lors des attentats du 13 novembre. Bien plus, ils ont souhaité nous diviser, mais ont eu pour seule réponse une union nationale sans précédent, même si celle-ci, malheureusement, ne fut que de courte durée. Aussi, en réfléchissant au thème de cette chronique du jour, j'ai cherché un sujet qui puisse être à la fois totalement détesté par Daesh et également adoré par chacun d'entre nous. Et j'ai donc immédiatement pensé à Noël. Noël, donc, avant d'être déclarée fête de la naissance du Christ, Noël était une fête païenne, célébrant la nature et le solstice d'hiver. Il est vrai qu'actuellement, Noël est bien loin de ses origines. Et pourtant, Noël reste un moment d'échange, de partage et d'espérance. Pour ma part, en tant que doctorante, ma lettre au Père Noël se concentre essentiellement autour d'un vœu essentiel, celui de pouvoir soutenir ma thèse l'an prochain. D'ailleurs, elle est parfaitement identique chaque année depuis maintenant 4 ans. Et pourtant, aucun de mes vœux n'a encore été exaucé. En effet, ayant pris quelques kilos depuis le début de la thèse et n'étant que faiblement rémunérée, j'ai souhaité l'an passé retrouver ma taille fine à avoir un gros compte bancaire. Mais malheureusement, cher Père Noël, tu m'as donné l'inverse. J'ai aussi désiré que l'économie française reparte à la hausse et que le chiffre du chômage baisse. Mais là aussi, cher Père Noël, tu m'as donné l'inverse. Alors, cher Père Noël, puisque tu inverses sans cesse mes souhaits, sache que cette année, je rêve que le Front National gagne les prochaines élections et que l'équipe de France de football perde l'Euro 2016. En tout cas, en attendant, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année qui, pour ma part, seront à l'image anti-Daesh et donc nécessairement bien arrosées.
Merci beaucoup, Jennifer. Bonjour à tous et à toutes. Barbara sur Radio Campus pour une nouvelle édition de Quoi de Neuf Doc, l'émission de l'association Doctovergne. Vous venez d'écouter le billet d'humeur de l'émission réalisé aujourd'hui par Jennifer Exbraya, doctorante en droit privé au Centre Michel de l'Hôpital. Et après cette introduction lyrique, en même temps triste et drôle. Et avant de vous présenter le sommaire, je tiens à présenter mes félicitations au nouveau bureau de Doctovergne, élu en début de semaine, et je leur souhaite déjà de mener à bien toutes les actions intéressantes prévues pour l'avenir. Maintenant que cette petite parenthèse est faite, place au sommaire pour une nouvelle émission toujours plus captivante. Nous commencerons tout d'abord par un focus actu, pour lequel je suis ravie d'accueillir Enguerrand Serrurier, doctorant en droit public à l'Université d'Auvergne. Nous débattrons avec lui de la COP21, de ses enjeux, ses promesses, et peut-être des désillusions qu'elle fera naître à l'avenir. Juste après, Noémie Mermet, doctorante en neurosciences, nous présentera une nouvelle chronique Passe-Science. Après l'alcool et ses effets sur notre vessie, elle reste dans le glamour et traite aujourd'hui du rhume et du système immunitaire, de la morve, et oui. Ensuite, Arthur Chassagnol, doctorant en mathématiques fondamentales et nouveau président de Doctovergne, interviewera Alexandre Delplanque, doctorant en physique de l'atmosphère, au laboratoire de météorologie physique. Ce sera le 8 minutes avec. Puis, Alice Julier, doctorante en droit privé au Centre Michel de l'Hôpital, revient avec une nouvelle chronique « Société en marche », consacrée aujourd'hui à la crise de l'entreprise, ça va très bien avec le billet d'humeur, son sujet de prédilection. Et oui, il en faut pour tous les goûts, il y en a qui aiment la crise de l'entreprise. Pour finir, je vous présenterai les événements importants des semaines à venir. Il s'agit de l'agenda des doctorants. J'accueillerai tout particulièrement Maïmona Toumar, doctorante en chimie et curieuse du monde entrepreneurial, qui nous parlera de son projet, notamment du lancement de l'antenne clermontoise de Make Senses. Je suis certaine que ce sommaire a déjà titillé votre curiosité et je vous propose donc de passer sans plus attendre au Focus Actu.
Okay, Ronnie, I'm ready to start motion station forward.
Doctorants et docteurs, voilà l'actu.
We think that the NTA is out of the trust, so you can relax a little bit with it.
C'est Focus Actu.
Hey, for you guys, take one moment to look at the overhead windows on Discovery.
Comme je viens de vous l'annoncer, nous accueillons sur ce plateau Enguerrand Serrurier, doctorant en droit public à l'Université d'Auvergne, pour ce nouveau Focus Actu consacré à la COP21. Bonsoir Enguerrand.
Bonsoir Barbara.
Es-tu prêt à répondre à toutes nos questions et à débattre avec nous ?
On va essayer.
Commençons peut-être par une petite question assez générale. Peux-tu nous expliquer les enjeux de la COP21 ?
Bon, alors, à moins de vivre retiré dans un ermitage ou de ne pas sortir le nez de votre thèse, qui est une activité très louable, hein, bien entendu, vous avez dû entendre parler ces dernières semaines de la COP21. Alors, la COP21, ce sont, encore une fois, la preuve de la mode des acronymes dont on ne sait pas trop ce que ça signifie. Qu'est-ce que la COP21 ? C'est la conférence des parties, la 21e depuis la CNUC, autre acronyme, Convention des Nations Unies sur... Convention des Nations Unies cadre sur les changements climatiques de 1992, et elle a pour but de réunir les États qui se sont engagés à diminuer leurs émissions de gaz carbonique, gaz à effet de serre notamment, enfin pour l'essentiel, tous les deux ans à peu près depuis 1992. Donc.
Alors du coup, quels sont les objectifs nouveaux de la COP21 ?
C'est toujours les mêmes, la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Cela fait 20 ans que cela continue. Le problème est qu'il y a eu des engagements contraignants, oui, difficilement, qui ont eu lieu. Certes, le protocole de Kyoto, qui dit à peu près qu'il faut une réduction, effectivement, tout déjà de l'émission des gaz à effet de serre pour arriver à une augmentation de moins de 2 degrés d'ici 2050. Cela n'a pas été respecté puisque depuis 1990, ces émissions ont augmenté de 45%. Il a déjà eu une conférence à Copenhague en 2009. Cela vous dit aussi quelque chose, la COP15 qui a pitoyablement échoué. Alors l'objectif est toujours le même, est d'essayer d'arriver à un nouvel accord contraignant pour la période post-2020.
Alors j'ai lu dans le journal ce matin, donc François Hollande a dit qu'il n'accepterait aucun accord qui irait au-delà de cette baisse de 2 degrés prévue. Pourtant, comme tu viens de le dire, le protocole de Kyoto en 1997 était quand même contraignant. Si je ne me trompe pas, il devait être effectif en 2005. On a reporté ses effets à 2020.
Oui.
Et on n'a toujours pas abouti à quelque chose de concret. Pourquoi cet échec ?
Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les plus gros pollueurs ne sont guère concernés par les normes qui sont mises en place par le protocole de Kyoto. Et les États-Unis qui ont signé le protocole ne l'ont jamais ratifié. Or, les États-Unis sont par exemple le plus gros pollueur par tête dans le monde, devant la Chine. Lorsque l'on sait que la Chine et les États-Unis, à eux seuls, représentent 45% des émissions de gaz carbonique dans le monde, on sent que l'effort à faire est là. Et le fait que les pays européens aient ratifié Kyoto n'a eu qu'un impact assez marginal, parce qu'en même temps, le développement de la Chine s'est accéléré depuis ces 20 dernières années, et donc la pollution et l'émission de gaz à effet de serre a augmenté.
Et d'après toi, est-ce que la COP21 pourrait finalement prendre le contre-courant et rompre avec les échecs précédents et les échecs du protocole de Kyoto ?
Alors il faut l'espérer parce que la diplomatie française depuis deux ans n'a pas ménagé ses efforts et a vraiment essayé de trouver un accord. Il suffit de voir la différence qu'il y a avec la conférence de Copenhague qui était, encore une fois je le répète, un pitoyable échec avec un document de déclaration politique de 3 pages à la fin de cette conférence. Actuellement, le document préparatoire pour Paris, il fait 50 pages. L'idée serait de faire une espèce d'accord évolutif dont on pourrait augmenter les critères d'exigence dans le temps. Cela peut être intéressant, notamment pour la Chine qui s'est déjà engagée, par exemple, à atteindre un pic d'émissions en 2030. On commence à avoir une prise de conscience écologique de ce fait-là. Et puis oui, il y a toujours à propos de la Chine. La Chine et les États-Unis, par exemple, ont déjà signé un accord bilatéral en 2014 par lequel ils s'engagent à réduire leurs émissions d'effet de serre. Vous avez l'Inde qui s'est engagée elle aussi à adopter une politique environnementale de ce point de vue-là qui soit intéressante à condition qu'un fonds international de transition écologique soit mis en place, ce qu'on appelle le fonds vert pour le climat, à peu près 100 milliards d'euros, ce qui serait quand même une somme assez remarquable. Et vous avez les États en développement qui sont aussi prêts à prendre ce train à condition qu'on les aide à aller vers cette transition économique. Donc oui, il peut y avoir de l'espoir. Le problème, encore une fois, va venir, sans anti-américanisme, des États-Unis, parce que John Kerry est arrivé à la conférence la veille en disant « Évidemment, cela n'aura pas de but contraignant », déjà torpillé en 10 secondes, 2 ans de négociation. Et le Congrès, à majorité républicaine, a déjà fait savoir qu'il ne ratifierait pas tout acte de la COP21 signé par le président Obama.
Peut-être juste avant de te laisser la parole, Alice, pour les non-juristes ou éventuellement un texte qui n'a pas de valeur contraignante ne s'impose pas et ne peut pas être sanctionné s'il n'est pas appliqué. C'est vrai que bon, on fait un peu un dialogue de juridico-juriste, mais voilà, je te rends la parole, Alice.
Oui, alors en fait j'avais une question. Donc tu parles de négociations qui portent en fait sur des objectifs à atteindre et notamment des États en voie de développement qui voudraient être assistés ou aidés pour atteindre ces objectifs. Et du coup je me demandais si dans les négociations il y a des moyens qui sont évoqués, il y a des plans concrets qui le sont, parce qu'il me semble que ce serait assez utile pour justement aider ces pays en voie de développement à remplir des objectifs.
Mais clairement, et c'est là d'ailleurs que va se jouer vraiment la crédibilité du mécanisme qui va être mis en place. Le protocole de Kyoto avait déjà créé un mécanisme dit de développement propre, mais qui a eu un succès assez limité, pour ne pas dire le mot échec. Et effectivement, si ce fonds vert pour le climat atteint effectivement ce quota de 100 milliards de dollars, il va y avoir réellement une politique d'aide internationale et un renouveau de la coopération, je le pense, axé autour du développement durable. Alors, les États en développement disent, et ils ont raison de le dire, nous avons le droit de nous développer, nous avons un droit au développement. Et si nous voulons protéger le climat, alors il faut transformer ce droit en développement en droit en développement durable. Le problème, c'est qu'il faut accepter à ce moment-là des transferts financiers. Et le Canada, par exemple, s'est retiré bruyamment en 2011 du protocole de Kyoto parce qu'il était menacé de devoir payer des pénalités à cause de son irrespect de ses conventions. Et Stephen Harper avait dit que tout ce processus sur le climat, c'était le Premier ministre du Canada à l'époque, n'était qu'une excuse socialo-tiers-mondiste pour arracher de l'argent aux pays riches. Donc effectivement, lorsqu'on est dans une telle mentalité, on peut se demander si l'accord sera atteignable. Je le pense, mais difficilement.
Et alors concrètement, c'est vrai que quand on regarde l'actualité, on entend un petit peu parler de cette volonté de diminuer les gaz à effet de serre. On entend surtout, en tout cas en France, que ça attire beaucoup de monde, qu'il y a des normes de sécurité importantes, etc. Mais il y a combien de personnes présentes pour ce sommet de la COP21? Combien d'États? Est-ce qu'il y a des ONG? Enfin, qui est là et qui discute?
Alors concrètement, ce qui est intéressant, c'est vrai, c'est un sommet international extrêmement important du point de vue numérique. Il y a des milliers de personnes qui sont présentes au Bourget, les délégations de plus de 190 États. Alors bon, cela peut faire sourire que les îles Salomon ou le Luxembourg envoient des délégations de plusieurs dizaines de personnes, mais au moins ils représentent leur État. Vous avez des ONG qui sont officiellement accueillies au sein des négociations. Évidemment, ils ne seront pas signataires des traités, mais ils auront quand même un mot à dire et ils peuvent servir en quelque sorte de moyen de pression de l'opinion publique, de la société civile sur certains États qui pourraient être réticents à s'engager plus avant, comme le Canada que je viens de citer à l'instant.
Et est-ce qu'il y a des experts, beaucoup d'experts aussi présents pour analyser un petit peu la situation actuelle au niveau du climat ou...
Alors ça a beaucoup eu lieu dans la phase pré-COP, avec une grande importance du GIEC, qui est un groupement d'experts qui a publié nombre de prévisions sur le climat. Effectivement, oui, le juridique, là, est un peu limité par le scientifique, puisque il faut toujours justifier les propositions de négociation que l'on fait dans cette conférence par un objectif climatique. Néanmoins, c'est le politique qui a la main.
Et là, du coup, alors, il y a des milliers de personnes, beaucoup de délégations. Concrètement, qui est-ce qui va voter le texte? Qui est-ce qui va le rédiger s'il y a un texte contraignant adopté? Qui est-ce qui va choisir s'il sera contraignant ou ce sera une simple déclaration?
Alors, on a déjà une maquette. Hein, je l'ai dit, on a une maquette de 50 pages que Laurent Fabius a présentée et qui sert de base. Et en fait, la négociation qui a lieu là, jusqu'au 11 décembre, c'est simplement des amendements. Des amendements de ce projet. Néanmoins, concrètement, ce seront les États les plus importants qui, finalement, décideront de la portée de cet accord. Et tout va se jouer autour, je pense, de John Kerry, de Laurent Fabius, du Premier ministre indien et du président chinois. Et ceux qui signeront, évidemment, ce seront les plénipotentiaires envoyés par leurs États. Mais politiquement, c'est autour de ces trois grands États que tout cela se joue.
Moi, je me pose une autre question. Je suis désolée parce que j'espère que je ne te pose pas une colle. Mais comment réagissent les mouvements écologistes face à la COP21? Est-ce que c'est quelque chose qui... Bon, j'imagine qu'il y a tout un tas de réactions différentes, mais est-ce que c'est quelque chose qui, justement, mobilise les gens et à essayer d'encourager les États à signer? Ou est-ce que c'est quelque chose dont les associations écologistes se désintéressent parce qu'elles trouvent que ce n'est pas assez ou que c'est mal fait?
Non, je pense que ce sont les principales, les ONG d'ailleurs les plus revendicatives, des associations comme Greenpeace, comme WWF, qui ont un rôle de pression finalement médiatique. Également, il faut savoir que dans le fonds de 100 milliards pour le climat qui va être mis en place, l'on va essayer de faire appel également aux finances privées, parce que les finances publiques ne sont pas dans un état des plus merveilleux, y compris dans d'autres états que le nôtre. Et donc, effectivement, les ONG font un lobbying assez important, et notamment auprès des investisseurs privés pour promouvoir l'investissement durable. Alors, est-ce que cela aura des conséquences concrètes? On le saura dans les années à venir.
Et au niveau des entreprises, parce qu'en France, notre gros problème quand même, c'est de convaincre les entreprises de polluer moins. Est-ce que les entreprises sont associées aux négociations à un certain titre ou pas? Parce qu'en fait, il me semble que c'est une des grosses solutions. On n'arrive pas du tout à imposer à nos entreprises d'avoir un comportement écologiquement responsable.
Alors, à imposer, tout dépend du cadre de l'imposition. Il est vrai que des multinationales, on a beaucoup de mal à les contrôler, effectivement. Par contre, oui, clairement, il y a des entreprises qui sont partie prenante des négociations, je pense que c'est beaucoup dire, mais qui suivent de très près, notamment toutes les grandes entreprises énergétiques. Tu te doutes bien que Total surveille cela d'assez près. Alors, quelle est leur capacité de pression ou de nuisance, peut-on même s'hasarder à dire? Juridiquement, elle est difficile à établir. Non, je ne peux pas vraiment répondre à ta question, en fait.
Bon, bah, si, quand même, déjà, mais c'est... Enfin, je trouve ça assez inquiétant. Et j'ai une autre question. Qu'est-ce que ça va être? Alors, tu as parlé du pré-COP. Qu'est-ce que ça va être le post-COP?
Alors, le post-COP, c'est là, en fait, où ça va vraiment être très important. C'est la mise en place d'un véritable mécanisme de suivi. Parce que c'est bien beau de faire des promesses et de dire que le texte est contraignant, mais comment va-t-on faire en sorte qu'il soit contraignant? Eh bien... L'important, c'est d'arriver à un accord. Et là, on est en pleine négociation là-dessus. Comment va être mis en place un mécanisme de suivi? Est-ce que c'est un mécanisme de suivi qui va contrôler, disons, des rapports d'émissions pour chaque pays ou par continent ou tout simplement au niveau global? Ça change tout complètement la donne. Est-ce qu'il y aura un pouvoir de sanction avec des amendes? On a bien vu ce que ça a donné avec le protocole de Kyoto. Le Canada a préféré partir parce qu'il était menacé d'amende. Donc comment faire en sorte qu'il y ait à la fois une contrainte sans arriver à l'échec? Parce que trop de contraintes sera systématiquement refusée par les États. C'est tout l'enjeu, finalement, je pense, de la COP21.
Oui, mais s'il n'y a pas de contrainte, est-ce qu'on va avoir un texte effectif?
Oui, mais après, tout dépend comment s'exerce la contrainte. Et alors, la contrainte, est-ce que c'est un mécanisme de suivi d'experts? Est-ce que on va mettre en place un organisme juridictionnel ou quasi-juridictionnel? Est-ce que c'est un organisme de contrôle par les pairs, c'est-à-dire des représentants des États, comme cela existe notamment au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, qui vérifie que les politiques mises en place correspondent aux objectifs contraignants, semi-contraignants, soft law, bref, on ne sait pas trop, qui seront proclamés dans cette conférence. Et vraiment, je pense que lorsque John Kerry nous disait « tout cela n'arrivera pas à un accord contraignant », le nœud de l'affaire, il est là. Il est là, sur... Comment va-t-on vérifier que chacun respecte bien ses obligations?
Bon, pour ma part, je reste un peu sceptique. S'ils ne veulent pas qu'on touche à leur porte-monnaie, je ne suis pas certaine que même de manière contraignante, ils vont
Mais même de toute
le
façon,
texte.
Le véritable scepticisme, il est autour, je le répète encore une fois, des États-Unis et de la Chine. Si les États-Unis et la Chine ne rentrent pas dans le jeu, ils représentent à eux seuls la moitié des émissions de gaz carbonique de la planète. La COP21 ne sert à rien.
Et est-ce qu'on peut avoir un bon espoir sur l'investissement des États-Unis et de la Chine?
Les États-Unis, le problème est que les Républicains ont le vent en poupe en ce moment, qu'ils ont clairement dit que la parole d'Obama n'engagerait que lui. Et malheureusement, mauvais signe encore une fois, aujourd'hui, le Congrès vient de voter l'abrogation du plan national de Barack Obama pour lutter contre les émissions de gaz carbonique. C'est un mauvais signe. Bon, Barack Obama utilisera son veto pour bloquer cela, mais c'est un mauvais signe. Par contre, du point de vue de la Chine, eh bien, l'on peut s'intéresser à une prise de conscience écologique qui est de plus en plus prégnante au niveau politique et puis au niveau économique et social. La population se rend bien compte de l'état détérioré de son environnement. Et donc tout cela se mélange avec l'idée de la pollution plus générale. Et on peut espérer effectivement que la Chine par exemple, a déjà promis d'abonder le fonds d'investissement pour les pays en développement de 3 milliards de dollars. C'est une preuve comment dire, de volonté de coopération internationale.
Merci beaucoup, Enguerrand, pour toutes ces Merci. Réponses, tous ces éclaircissements. Et puis, il me semble qu'en préparant cette petite interview, ce petit débat, tu as pensé à une chanson tout au long. Est-ce que tu peux nous dire laquelle ?
Ah, mais Eyes of the Tiger, bien sûr. Parce que vu l'état de la COP21, ils en ont bien besoin.
Merci. Vous venez d'écouter le titre entraînant de Survivor, Eye of the Tiger. Reprenons avec plus de douceur et accueillons Noémie pour sa chronique Passe Science.
Passe Science.
Bonsoir Noémie.
Salut Barbara, bonjour à tous.
Tu vas bien ?
Bah oui, écoute, ça va pas trop mal. Je rentre de Varsovie où il faisait moins 5 degrés et nuit à 15h30, mais c'était chouette.
Ah oui, ça fait nuit tôt, ça fait froid, tu n'es pas tombée malade ?
Non. Par contre, j'ai croisé beaucoup de gens enrhumés. Et pour tout te dire, comme d'habitude, j'avais pas trop d'idées de chronique pour aujourd'hui, donc je me suis dit, tiens, et si je parlais de rhume, de morve et de nez qui coule, ce serait sympa, non ? Et puis cette saison en plus.
Sympa, je sais pas, mais de saison, en tout cas, c'est bien le cas.
Alors, peut-être ne le savez-vous pas, chers auditeurs et chers chroniqueurs, mais si on attrape le rhume, plus particulièrement en hiver, c'est parce qu'il fait froid dehors.
Merci pour cette information super pertinente. On en attrape froid parce qu'il fait froid. Est-ce que tu n'as pas d'autre explication ?
Si, laisse-moi finir, enfin. Donc, si on attrape le rhume, c'est qu'il fait froid dehors, mais aussi dans notre nez. En fait, en hiver, la température dans notre nez diminue. Une baisse de température qu'apprécient les rhinovirus.
Les rhinovirus, super sympa. Ça vient d'où ce nom-là ?
Alors, leur nom provient du fait que ces virus possèdent une adaptation spéciale pour proliférer dans les voies nasales. Les rhinovirus se répliquent dans l'épithélium des voies respiratoires supérieures, c'est-à-dire nez, fosse nasale, bouche, pharynx et larynx dans la gorge. Et le climat idéal pour le rhinovirus est un climat humide et une température de 33 degrés.
Donc c'est un peu comme pour les chiens, quand on a la truffe froide, on va tomber malade.
Oui, on peut dire ça comme ça. Bon, en fait, pour être plus précise, le rhume est provoqué par plus de 200 virus différents, mais dans 40% des cas de rhume, ils sont provoqués par le rhinovirus.
Et est-ce que c'est contagieux, ce rhinovirus et ce rhume ?
Ah bah oui, déjà, en se multipliant, le rhinovirus se dissémine un peu partout dans les voies respiratoires. Ensuite, il est microscopique. Imaginez qu'il faut 50 000 rhinovirus alignés dos à dos pour couvrir seulement 1 mm. Et enfin, sachez qu'un éternuement rejette 3000 gouttelettes infectieuses dans l'air à plus de 260 km/h. Donc, je te laisse imaginer le nombre de virus balancés entre toi et moi si j'éternue ici.
On n'est pas assez intime, n'éternue pas.
Je vais essayer, je te le promets.
Et pourquoi est-ce que le virus se loge dans le nez et se loge pas dans les poumons, par exemple, puisque des fois, on a aussi mal aux poumons quand on a un rhume ?
Oui, alors en fait, il semblerait que la réponse immunitaire antivirale du corps, donc en fait celle qui lutte contre les virus, vous l'aurez compris. Donc cette réponse immunitaire est plus faible dans la cavité du nez où il fait plus frais que dans les poumons où il y fait plus chaud. Une équipe de l'université de Yale a analysé comment se comportait la réponse immunitaire dans des cellules qui étaient incubées dans les 33 à 35 degrés typiques de l'environnement de la cavité nasale par rapport aux cellules qui ont été maintenues à 37 degrés, la température habituelle des poumons. Et ils ont constaté que quand un virus envahit les cellules chaudes, elles produisent davantage d'interférons, qui sont des protéines qui aident à bloquer la propagation d'un virus en avertissant les cellules saines et déclenchant une réponse immunitaire. Par contre, dans les cellules froides des fosses nasales, ce système d'avertissement est moins efficace et le virus est capable de se propager plus facilement. En conclusion, la recherche donne de la crédibilité au fait que lorsqu'il fait froid dehors, autant rester au chaud et se couvrir le nez si l'on sort pour éviter d'attraper un rhume. Je tiens à préciser quand même qu'on trouve les rhinovirus partout à travers le monde. Ils frappent surtout les communautés, que ce soit les écoles, les familles, les lieux de travail. Et sachez aussi qu'un adulte va se faire infecter une à deux fois par année, ceci étant dû au nombre élevé de sérotypes ou, si vous voulez, de types de virus. Et bon, je vous l'ai déjà dit, mais les virus se transmettent de façon aérienne, par gouttelettes, et par des sécrétions nasopharyngées en toussant ou en éternuant, par exemple. Mais ce qui est étonnant, c'est que la transmission peut être aussi oro-fécale. Du coup, on m'a demandé en rigolant si on pouvait attraper un rhume en mangeant ses crottes de nez. Eh bien, il n'y a pas si longtemps, une étude a évoqué au contraire les bienfaits immunitaires de l'ingestion de morve, surtout chez les enfants.
C'est-à-dire, explique-nous tout ça.
Alors, je vous préviens, on rentre dans la partie glamour de cette chronique. Eh bien, la morve, que l'on va plutôt appeler mucus, si vous voulez bien.
Oui, ça fait moins peur, moi, que là.
Donc, ce mucus a un rôle en tant que barrière protectrice qui garde humides les tissus et retient les bactéries et d'autres organismes étrangers. Récemment, des chercheurs de l'université de San Diego ont découvert que la surface du mucus est le site d'un système immunitaire indépendant qui nous protège activement contre les agents infectieux dans l'environnement. Donc en gros, notre morve a son propre système immunitaire. C'est génial ! Alors, comment ça marche ? Eh bien, le mucus est produit par le tissu qui tapisse les surfaces intérieures du corps, qui sont en contact avec l'environnement extérieur. Donc la bouche, le nez, les sinus, la gorge, les poumons et le tube digestif possèdent donc tous des tissus producteurs de mucus. La couche de mucus a longtemps été identifié comme assurant une protection contre le monde extérieur, mais d'une manière plutôt passive. Et désormais, ce n'est plus le cas. On sait aujourd'hui que ce système immunitaire se compose d'une couche de virus qu'on appelle bactériophages et qui attaque les bactéries. Ce serait un peu les virus des bactéries. En plus, ils sont fourbes, ces bactériophages, parce qu'ils arrivent à contrôler le système immunitaire d'une bactérie pour le retourner contre elle-même. Le bactériophage adore le mucus. Il y trouve les conditions idéales pour vivre avec beaucoup d'hôtes, de bactéries si vous voulez, à infecter pour proliférer. Il agit en fait en bon soldat pour protéger les animaux comme nous de maladies infectieuses. Moralité, arrêtons de disputer les enfants qui se fourrent les doigts dans le nez, ils ne font que se protéger.
C'est noté, mais malgré tout, les règles de politesse vont un petit peu à l'encontre de la protection par le mucus. En tout cas, merci Noémie pour cette passionnante chronique.
Oh, mais de rien, Barbara. On se retrouve le mois prochain. Et en attendant, je vous laisse sur une musique de saison qui sent bon l'hiver et le rhume. Let it snow, let it snow, let it snow de Frank Sinatra.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Doesn't care if it's 10 below, you're sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh-wee, goes the storm. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
I don't care.
Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Vous êtes toujours au 93.3 sur Radio Campus pour l'émission Quoi de neuf doc. Il est 18h33, vous venez d'écouter Let It Snow de Frank Sinatra. Je laisse maintenant mon micro à Arthur. Si vous nous suivez régulièrement, vous l'avez compris, c'est le 8 minutes avec et ce sera bien 8 minutes Arthur.
D'accord, très bien Barbara. Comme tu l'as dit, Barbara, on va essayer de se tenir au chrono aujourd'hui et de faire 8 minutes. Donc, on accueille Alexandre Delplanque aujourd'hui, qui est doctorant donc, sur un sujet un peu nouveau. On va parler un petit peu de météo. Il étudie l'étude des processus atmosphériques produisant de fortes concentrations en glace dans la haute troposphère. Voilà un petit peu le programme du jour. Donc, Alexandre, je vais te laisser un petit peu te présenter et nous raconter rapidement ton parcours qui t'a conduit à étudier ce genre de sujet en thèse.
Très bien. Et déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, Alexandre, voilà. J'ai fait, après mon bac, donc 2 ans de prépa physique-chimie dans le Nord. Et ensuite, je suis venu à Clermont-Ferrand pour la licence, puis le master en physique. Et après le master de recherche, donc, j'ai continué sur une thèse.
Oui, vas-y.
Alors pourquoi la météo ? En fait, j'en sais rien. C'est une passion qui m'est venue quand j'étais petit. J'étais au début du collège. J'ai toujours aimé ça et ça m'a pas quitté. Tant mieux.
D'accord. Et alors, quand on est passionné de météo, pourquoi venir à Clermont-Ferrand ? Est-ce que c'est pour des raisons complètement extrascolaires ou est-ce qu'on a peut-être un master ou une licence particulièrement réputée ici ? Je ne sais pas comment
alors, t'as connu j'étais déjà à Clermont pour faire mon collège. Donc, c'était
d'accord.
déjà
une région
okay. que j'apprécie tout particulièrement. Donc, quand j'ai vu que c'était possible à Clermont, je n'ai pas hésité une seule seconde. Après, on a un laboratoire de météorologie physique à Clermont qui est relativement réputé à travers le monde scientifique de la météo, notamment grâce au chalet du Puy-de-Dôme. Peut-être que l'un d'entre vous en a déjà entendu parler. Voilà, c'est un chalet juste en dessous de l'antenne qui permet de faire des mesures assez poussées sur les nuages.
Alors justement, tu nous parles de ce chalet. J'avais envie de te demander un petit peu. Tu nous dis que tu travailles dans le sujet que tu travailles sur la haute troposphère. Donc j'imagine que c'est à quelle altitude déjà situe la troposphère.
Alors la troposphère, c'est la première couche de l'atmosphère. Alors elle varie selon l'endroit où on se situe sur le globe, mais à nos latitudes en France, on peut estimer qu'elle est aux alentours de 12 km d'altitude, jusqu'à 12 km d'altitude à peu près.
D'accord. Et alors concrètement, quand on travaille sur des données météorologiques dans la troposphère, comment on fait pour prendre des mesures ? Est-ce qu'on peut aller en prendre directement ? Quels sont les systèmes pour étudier ces altitudes ?
On a plusieurs systèmes. Hein. On a tout ce qui est système entre guillemets à distance avec des radars qui peuvent permettre à certaines longueurs d'onde de voir ce qu'il y a dans les nuages, que ce soit de l'eau, de la glace, etc. Et on a également des instruments qui permettent d'aller, grâce à des avions, dans les nuages directement pour, par exemple, prendre en photo des cristaux de glace.
Alors, donc, ces cristaux de glace, donc ces nuages, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, donc de ton sujet de thèse. Donc, raconte-nous un petit peu quels sont les objectifs de cette thèse et qu'est-ce que tu étudies dans nos petits nuages.
Alors, le contexte général, c'est qu'il arrive régulièrement qu'il y ait des incidents dans les réacteurs d'avions en vol, causés par on ne sait pas trop quoi, par du givrage, des sondes et des ailes, etc. Mais ce n'est pas du givrage classique. Du givrage classique, il se fait à des températures avoisinant les 0 degrés, d'accord ? C'est de l'eau qui, tout doucement, commence à devenir de la glace. Là, on parle de températures avoisinant les moins 40 degrés Celsius. Il n'y a pas d'eau liquide à ces températures-là. Je suis pas spécialiste, mais je suis pas sûr. Donc voilà, c'est un nouveau problème posé. Qu'est-ce qui se passe ? Et donc voilà, moi mon objectif c'est de savoir ce qui s'y passe.
Alors tu nous dis occasionnellement ça peut créer des incidents dans les réacteurs d'avion, mais qu'est-ce que tu appelles occasionnellement ? Et est-ce que c'est des problèmes graves ? Est-ce qu'on a eu vraiment des accidents d'avion créés par ça ou c'est juste des problèmes qui sont contrôlables par...
Alors déjà, occasionnellement, c'est un événement tous les 36 du mois. Hein. C'est vraiment... il y a peut-être eu, dans les 20 dernières années, je sais pas, peut-être une quinzaine d'incidents. Bon. Et je parle d'incidents, je parle pas d'accidents.
D'accord.
Donc c'est des réacteurs qui peuvent un peu ne pas aimer les conditions. Pour autant, c'est pas pour ça que l'avion va se crasher. Hein.
Et est-ce que, du coup, essayer de mieux comprendre tout le contexte de formation de ces petits cristaux de glace peut permettre d'éviter ces incidents. Est-ce que le but, c'est de prévoir, je ne sais pas, dans la façon dont on fabrique les avions, des façons de résister à ces cristaux-là ?
Alors, le problème de ces zones dans lesquelles ces incidents arrivent, c'est que ces zones ne sont pas détectées par les radars des avions. Les avions ont des radars pour détecter les zones très orageuses, etc. Et ces zones-là ne sont pas détectées comme potentiellement dangereuses par les radars. Donc, l'objectif de l'étude générale, c'est de pouvoir caractériser ces zones-là pour ensuite pouvoir, voilà, au moins savoir qu'elles existent et ensuite voir ce qu'on peut en faire, si on doit les éviter, si on peut, voilà. Après, moi, mon objectif, il est beaucoup plus modeste, hein. Ça commence déjà par caractériser ces zones. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a avant de pouvoir ensuite les prévoir.
Oui, vas-y.
Et donc, il apparaît que ces incidents seraient a priori causés par une forte concentration de petits cristaux de glace. Voilà, donc petits cristaux de glace, c'est sous-entendu de quelques centaines de micromètres, donc moins d'un millimètre.
D'accord, très bien. Quand on fait une thèse en météo à ce niveau-là, est-ce que tu te diriges ensuite vers de la recherche pour continuer un petit peu sur ces thèmes-là ? Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui t'intéressent ou est-ce que tu comptes changer un petit peu de, de voie ou...
La voie classique, c'est de continuer ensuite pour faire de la recherche, soit via le CNRS, soit la maîtrise de conférences, etc. Moi, je me concentre déjà sur ma thèse, il y a déjà du boulot. Donc, voilà. Et après, on verra. En météo, il y a difficilement des entreprises vraiment intéressées. Il peut y en avoir. Après, il peut aussi y avoir, par exemple, Météo France qui peut être intéressée par des docteurs.
C'est ça. Tu m'as parlé que tu avais passé le concours de Météo France.
Non, quand je suis venu à Clermont, c'était dans l'idée de préparer ce concours. D'accord. Finalement, le master recherche m'a bien plu et je me suis dit pourquoi pas une thèse. Voilà, non, ça c'était il y a 3 ans.
Mais du coup, pour ceux qui nous écoutent, ce concours de Météo France, ça consiste en quoi exactement? Enfin, est-ce qu'il y a des formations pour ce concours? Ensuite, est-ce qu'il y a c'est une école d'ingénieurs? C'est une école Météo France?
C'est une école d'ingénieurs. Après, il y a plusieurs entrées possibles. Il y a une entrée après le bac, il y a une entrée après le master. Donc il y a plusieurs entrées possibles pour pouvoir faire ingénieur, par exemple, prévisionniste. C'est ce qu'on voit à la télé quand il y a des problèmes de météo et qu'ils ont 5 écrans devant eux et tout ça.
Et il y a besoin, enfin, est-ce qu'il y a des formations? Est-ce que c'est des qualités de connaissances en culture générale, etc., qu'il faut connaître? Enfin,
pour le concours après doctorat, je ne sais même pas s'il existe vraiment. Pour le concours après master, il y avait effectivement des épreuves de météorologie, des épreuves de culture générale, etc.
D'accord, très bien. Bon, je pense qu'on en sait un petit peu plus sur la recherche et la recherche en météo. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous laisser des messages qu'on transmettra à Alexandre sur notre site internet. Et on va se quitter avec la chanson choisie par Alexandre, Smoke on the Water de Deep Purple.
Écoutez le son de Deep Purple, Smoke on the Water. Restez avec nous pour l'émission Quoi de neuf doc. C'est au tour d'Alice de nous présenter une nouvelle chronique consacrée cette fois à la crise de l'entreprise.
Dans tout l'Occident, il semblait que la culture fût un ensemble de connaissances ou une forme de raffinement. Mais depuis le début du siècle, la confrontation des grandes cultures de l'humanité a fait de la culture un problème.
Bonsoir Alice.
Bonsoir.
Alors, tu as choisi de nous parler de la crise de l'entreprise.
Oui, aujourd'hui je suis en mode feignasse. Je me suis interrogée longtemps, c'est-à-dire au moins 5 minutes, sur le thème que j'allais aborder, sachant que Barbara avait arbitrairement et honteusement réduit la durée de ma chronique. J'ai donc décidé de vous parler d'un sujet que je connais très bien parce que c'est le thème de ma thèse, la crise de l'entreprise. Je précise d'ailleurs que par crise, j'entends les difficultés économiques auxquelles peuvent faire face les entreprises.
Moi, j'entends surtout les difficultés des chroniqueurs qui me disent tous ce soir qu'ils ne sont pas inspirés, dis donc. Enfin bref, ton sujet de thèse quand même, c'est pas très très gai. Tu as décidé de déprimer nos auditeurs aujourd'hui ?
Eh ben non, au contraire, travailler sur la crise des entreprises et plus particulièrement sur les outils juridiques qui permettent de les appréhender et de les gérer, c'est quelque chose de très important. Et en effet, ça permet souvent d'éviter le pire et même de sauver l'entreprise, les emplois qui vont avec et même le secteur d'activité. Le droit des entreprises en difficulté, c'est d'ailleurs un des éléments qui est pris en compte dans la notation des économies par le rapport Doing Business qui est fait par la Banque mondiale. C'est un rapport annuel qui classe les États. Je vous en parlerai peut-être dans une autre chronique.
Alors, admettons que tu essaies de nous réconcilier avec le droit de la crise des entreprises, admettons même que tu y arrives. Tu nous parles d'outils juridiques permettant de gérer, voire même d'endiguer ces crises. Alors déjà, moi, ça me parle pas trop, mais alors je pense aux mathématiciens autour de la table, par exemple. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, je vais vous donner quelques bases communes à tous les systèmes juridiques, puisqu'en fait, il existe vraiment un socle commun sur l'insolvabilité. Donc l'insolvabilité, c'est l'incapacité à faire face à ses dettes des entreprises. Donc on met en place en fait des procédures qui sont destinées à régler la situation d'un entrepreneur qui n'est plus en mesure de payer ses dettes grâce à son activité économique. Lorsqu'un entrepreneur ne peut donc plus payer ses dettes, il est poursuivi par ses créanciers, chacun de leur côté. Il croule sous les relances, sous les huissiers, parfois même les assignations en justice, et il ne peut plus s'en dépêtrer tout seul, dans la mesure où lui, il n'a pas la possibilité d'imposer la patience à ses créanciers. Le droit de l'insolvabilité, il va alors venir pallier sa situation et l'assister dans le règlement de ses difficultés. La première étape, c'est que le droit des procédures collectives, le droit de l'insolvabilité, il va prononcer la suspension des poursuites individuelles. C'est-à-dire qu'on va stopper chacune des assignations individuelles pour ouvrir une seule et même procédure qu'on appelle la procédure collective. Elle va prendre en compte l'ensemble des dettes de l'entreprise débitrice et elle va organiser leur paiement. Donc, elle est faite sous la tutelle du tribunal de commerce et d'autres organes de procédure qui vont examiner la situation économique de la société, de l'entreprise et déterminer si elle est viable ou non. Si elle est viable, on va mettre en place une procédure de sauvetage. Donc, il en existe plusieurs cas selon les pays. Et si elle n'est pas viable, on met en place ce qu'on appelle une procédure de liquidation judiciaire. Dans ce cas-là, on va vendre tout ce qui reste sur l'entreprise, tous les biens, tout ce qui reste, et on va payer toutes les dettes qu'on peut selon un ordre qui est déterminé par la loi.
Alors du coup, dans ce dernier cas, les difficultés sont déjà plus qu'avancées, voire même très bien avancées. C'est plutôt déprimant, hein, on n'est toujours pas réconciliés. Ne faudrait-il pas plutôt faire une application de l'adage assez récurrent, mieux vaut prévenir que guérir, plutôt qu'attendre cette procédure collective pour tout liquider ?
Si, tu as complètement raison. D'ailleurs, c'est vraiment un enjeu qui est suivi par beaucoup d'États. Les États encouragent en fait les entreprises à prendre les choses en amont, avant ce qu'on appelle la cessation des paiements, c'est-à-dire le moment où avec ce qu'on a en trésorerie sur son compte, on ne peut plus payer les dettes qui sont immédiatement exigées. En France, il y a un nombre assez conséquent de procédures différentes et il y a des procédures de prévention. On a des mécanismes d'alerte qui existent au sein des entreprises et des procédures préventives qui sont à la seule initiative du débiteur. Le droit français a créé la conciliation. C'est une négociation avec les créanciers, en fait, pour mettre en place un contrat qui sera destiné au sauvetage du débiteur et qui peut être homologué par le tribunal. En 2005, le législateur a mis au point une nouvelle procédure, cette fois qui est plus que la conciliation suivie par le tribunal, qui s'appelle la sauvegarde. Donc, c'est une procédure qui est ouverte de manière anticipée, c'est-à-dire avant la cessation des paiements, et qui est menée par l'autorité judiciaire. En 2010, puis en 2014, on a fait évoluer cette sauvegarde. En 2010, on a créé la sauvegarde financière accélérée. Et cette sauvegarde financière accélérée, elle ne porte que sur les dettes financières, donc à savoir les grosses dettes bancaires, etc. Et on va prononcer une restructuration des dettes financières. C'est vraiment pour les entreprises qui ont eu des gros soucis au niveau du remboursement de leurs prêts bancaires, en gros. Et puis, on a créé, en 2014, la procédure de sauvegarde accélérée, qui est une procédure qui met beaucoup plus en lumière la négociation avec les créanciers et qui va permettre de prendre un plan de conciliation qui avait été fait en amont sans l'intervention de l'autorité judiciaire et de l'imposer aux créanciers qui n'ont pas été d'accord, en fait, avec le plan de conciliation. Lorsque l'entreprise est déjà en cessation des paiements, le droit français y prévoit deux procédures. Lorsque la situation est quand même viable, on a ce qu'on appelle le redressement judiciaire. Et lorsque la situation est désespérée, on a la liquidation judiciaire.
D'accord. Alors, beaucoup de procédures différentes. Pour autant, est-ce que tu estimes que le droit français est efficace pour éviter ces liquidations judiciaires ou, en tout cas, si toutefois il y a liquidation, pour le faire au mieux?
Alors, c'est assez difficile à dire, en fait, parce que comme il a beaucoup, beaucoup évolué depuis le 2007, alors sur la liquidation, pas tellement, mais bon, sachant que c'est la situation à éviter quand même, on a surtout fait évoluer les procédures de sauvetage. La dernière réforme, c'était d'ailleurs la loi Macron, donc on a très peu de recul et en réalité, dans le droit des entreprises en difficulté, ce qui nous dit si ça marche ou pas, c'est vraiment la pratique. Donc, il nous faut un peu plus de temps. D'autant plus qu'il fait face à beaucoup d'enjeux, donc on veut satisfaire au maximum les créanciers, redresser le débiteur, régler les difficultés le plus rapidement possible, éviter la propagation des difficultés entre les entreprises pour ne pas créer une crise économique ou contribuer à une crise économique. Et en plus, on est face à un enjeu d'internationalisation des entreprises. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer. Et donc le droit français a dû s'y adapter, c'est ce qui s'est passé les 6-7 dernières années. Ce que je crains personnellement, c'est qu'il est très fin. Le droit français, on a essayé d'aller vraiment au plus fin des choses à proposer pour proposer les solutions à tout. Mais finalement, j'ai peur qu'il manque un petit peu de souplesse par la suite. Mais ça, en fait, l'avenir nous le dira. On verra ça avec la pratique.
Merci Alice. Et puisque ton temps en partie, même s'il était court, est déjà terminé, est-ce que tu peux nous dire le titre que tu as choisi?
Oui, et d'ailleurs je suis sûre que vous l'avez tous deviné. Il s'agit de « Ma petite entreprise connaît pas la crise » d'Alain Bachung.
Connaît pas la crise, épanoui élixir, des trésors satinés, doré à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile de mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée et les vacances. Abstinence, ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores. Le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour s'exporte. Qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos. Là j'écoule à mes oreilles.
Il est 18h54, vous êtes toujours sur Radio Campus au 93.3. Vous venez d'entendre Alain Bachung, ma petite entreprise connaît pas la crise. Si vous voulez en savoir plus sur les événements à venir dans la région, ne changez surtout pas de station. C'est l'agenda des doctorants.
L'agenda
des doctorants.
En préparant cette chronique, je pensais naïvement avoir peu de choses à dire. Décembre rime probablement pour beaucoup d'entre vous avec fin des cours, fin des partiels, de manière plus attractive avec vacances et cadeaux sous le sapin. Décembre a certes son lot de surprises et à mon étonnement, les manifestations culturelles de ce mois-ci sont loin d'être rares et sont comme toujours très nombreuses. Concernant les conférences, je vous en ai donc sélectionné 4, dont 2 qui se déroulent cette semaine. Oui, malgré tout, on va quand même pas travailler le 25 décembre, hein, faut pas exagérer. Alors tout d'abord, demain, pour ceux que ça intéresse, il y a la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Pour cela, les universités clermontoises et le rectorat organisent une conférence sur le thème de la place de l'université dans l'insertion professionnelle. Elle aura lieu à l'amphithéâtre Truden de l'école de droit à 17h30. Le lendemain, c'est-à-dire le 4 décembre, aura lieu à 15h à l'amphithéâtre Michel de l'Hospital de l'école de droit, à l'occasion de la remise du prix de thèse Michel de l'Hospital récompensant des travaux en droit ou en sciences politiques, une conférence de Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel, consacrée aux femmes qui ont réveillé la France. Cette conférence, issue d'un livre coécrit avec Valérie Bochnek, sera conclue par une dédicace. Dans un domaine complètement différent cette fois, l'Université Blaise Pascal et l'Institut Goethe de Lyon organisent le 9 décembre de 15h à 18h30 au 34 avenue Carnot une conférence intitulée « Apprendre l'allemand, un atout pour la vie professionnelle ». Et le 16 décembre aura lieu la 100e édition des Mercredis de la Science. Ça fait écho un petit peu à la COP21, également à la thèse d'Alexandre. Pour cet anniversaire, c'est un climatologue célèbre, Hervé Le Treut, qui viendra discuter du changement climatique en tant qu'enjeu scientifique et enjeu de société. Dans le climat de la COP21, une telle conférence peut s'avérer plus que passionnante. Si vous êtes tenté, rendez-vous à 18h30 à l'amphithéâtre Pascal, au 34 avenue Carnot. Vous descendrez peut-être de votre nuage, mais après la pluie vient le beau temps. Et pour terminer avec un petit brin de soleil sur cet agenda de décembre, c'est évidemment le mois de Noël et donc c'est aussi le mois du marché de Noël. Clermont a mis donc ses petits habits de lumière et vous retrouvez depuis samedi dernier Place de la Victoire tous les jours jusqu'à 20h et un peu plus tard le week-end, le marché de Noël. Vous retrouvez également le petit train qui est revenu cette année et qui pour 1€ vous permet de faire une visite de la ville. Pas encore enneigé, mais ça viendra peut-être. Et également la Grande Roue qui restera jusqu'au 10 janvier. Sur ce petit moment touristique, je reviens à un sujet un petit peu plus sérieux et je vous propose d'accueillir Maïmona Toumar qui vient nous parler de son projet, la mise en place d'une antenne Make Senses à Clermont. Bonsoir.
Bonsoir Barbara.
Est-ce que tu vas bien ?
Je vais bien et toi ?
Ça va. Alors du coup, j'ai annoncé un petit peu le projet Make Sense et l'antenne. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'est ce projet et puis finalement, pourquoi est-ce que tu montes ce projet à Clermont ?
Alors Make Sense, c'est une association française qui est reconnue actuellement internationalement. Elle a démarré il n'y a pas si longtemps que ça avec deux étudiants qui avaient un projet en fait d'études à l'étranger. Donc ils étaient à l'ESSEC et ils se sont rendus compte qu'en rencontrant des entrepreneurs sociaux à travers le monde, les gens qui étaient en France avaient beaucoup d'intérêt et voulaient aider ces entrepreneurs-là. Donc ils se sont dit que ça serait peut-être intéressant de prendre comme levier cette communauté-là qui se mobilise et essayer d'apporter quelque chose de nouveau à ces entrepreneurs qui peuvent rencontrer des défis au quotidien. On parle de la création là, d'entreprise et pas leur mort, mais voilà, il faut vraiment aider ces entrepreneurs-là. Donc Make Sense essaye vraiment d'apporter des outils intéressants pour ces entrepreneurs sociaux.
Alors concrètement, comment ça va se passer cette mise en place d'une antenne clermontoise ?
Alors, le début pour une antenne, c'est d'abord de faire des ateliers qui s'appellent les hold-up. Donc ces ateliers-là, ce sont des ateliers qui se passent dans un petit comité avec une quinzaine de personnes. En amont, il y a un gangster, c'est-à-dire un animateur d'atelier qui rencontre l'entrepreneur, qui essaye de définir une problématique pour la session. Donc bien sûr, ces entrepreneurs sociaux ont des objectifs soit pour l'environnement, soit pour la société. Et donc, une fois que l'objectif est défini, on va à travers un processus d'atelier type Silicon Valley pour essayer en 2 heures de proposer 4 solutions concrètes. Donc, pour cela, il y a des petits ateliers. Donc, ça peut aller des ateliers de brainstorming avec plein de post-it partout. Donc, c'est assez fun, etc. Et bien sûr, il y a le temps aussi qui vient un petit peu mettre le rythme dans les échanges entre les différents participants. Et on constitue finalement des équipes et c'est dans ces équipes-là que des solutions sont proposées.
Et du coup, qu'est-ce qui est concerné par ces hold-up ?
Alors tout le monde, bien sûr, il y a les entrepreneurs sociaux qui, eux, ont une problématique ou essayent d'avoir en fait une visibilité aussi. Donc ils veulent se rapprocher de leurs potentiels clients, etc. Et puis il y a le citoyen lambda qui a envie de participer à une activité en local ou un projet qui lui tient à cœur.
Et le premier hold-up, il aura lieu quand ?
Alors, en décembre, normalement. Donc là, on est vraiment au tout début. Donc, on a créé un groupe Facebook pour les gens qui sont intéressés. Donc, c'est Make Sense, tout collé, Clermont. Et donc, vous pouvez rejoindre ce groupe-là et on vous tiendra informé des prochains événements qui auront lieu. Donc, bien sûr, c'est un petit comité. Donc, on fait au fur et à mesure et en fonction des intérêts des gens. Mais c'est principalement par ce canal-là que vous aurez des informations.
Et j'imagine qu'il y aura des hold-up tout au long de l'année 2016 ?
Oui. Enfin, en tout cas, moi, je suis là jusqu'à fin novembre 2016. Donc, j'essaierai d'animer le maximum de hold-up. Je suis aussi soutenue par Culture Trafic. Donc, il y a Emmanuel Perron qui n'a pas pu venir, mais qui est en fait dans une société coopérative qui, elle aussi, aide les entrepreneurs. Donc, elle a l'habitude de travailler justement avec des entrepreneurs sociaux. Et en ce moment, ils sont en train de monter aussi un incubateur. Donc, c'est aussi une possibilité de se rapprocher de Culture Trafic et d'essayer d'avoir une place dans cet incubateur. Il faut savoir que la date limite, c'est le 20 décembre pour proposer sa candidature.
Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations.
De rien.
Et merci aussi à tous pour cette belle émission, puisqu'il est déjà l'heure de nous quitter. Mais vous pouvez nous retrouver pour la dernière émission de l'année le 16 décembre prochain ou dès tout à l'heure au Delirium pour le deuxième d'Octoverre de l'association d'Octoverne. Si vous ne pouvez pas venir et que vous rêvez d'entendre notre voix à nouveau sans pouvoir attendre la prochaine émission, n'hésitez pas à consulter les podcasts de l'émission sur le site de la radio www.campus-clermont.net, sur le site de d'Octoverne www.doctoverne.fr ou encore sur le Facebook de l'association. Sur ce, à très vite. Et pour les plus motivés, on se retrouve au Delirium pour boire un verre. Bye bye.
Vous venez d'écouter Quad Neuf Doc, l'émission de Doctoverne. Retrouvez-nous le 1er et 3e mercredi du mois, 18h-19h, sur Radio Campus Clermont-Ferrand 93.3 et sur le net clermont-campus.net.